Very Good Bowie Trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very Good Bowie Trip. Les 9 vies de David Bowie.
Aujourd'hui, 4e épisode de notre série sur David Bowie, je vais vous parler du suicide d'un extraterrestre et de la naissance d'un aristocrate glacial, hein, comme sorti d'un film expressionniste allemand, mettant son âme à nu et se déchirant avec la plus troublante des impassibilités.
Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on. Gene Genie lives on his back. The Gene Genie loves chimney stacks. Like a reptile, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
David Bowie dans The Gene Genie, un de ses grands succès britanniques et américains de la fin de l'année 1972, un blues boogie à l'insolente âpreté, très proche du riff de La fille du Père Noël de Jacques Dutronc, bien connu. où l'on respire une odeur urbaine de brûlé comme industriel. David Bowie vient de sillonner pour la première fois de sa vie les États-Unis lors de sa toute première tournée américaine où il a mis en scène le personnage de Ziggy Stardust, le rocker androgyne, désaxé et dépravé. Alors des impressions contradictoires l'ont traversé. Lui, l'anglais de conditions modestes, bien élevé, sans grande instruction mais curieux de tout, débarque dans ce vaste pays, les États-Unis, un pays vis-à-vis duquel les Européens et particulièrement les ressortissants de l'ancienne puissance coloniale britannique manifestent volontiers une attitude ambivalente, un mélange de fascination et de dégoût. Dans ces grandes villes, Bowie se retrouve projeté au cœur d'une société en pleine décadence où tout s'écroule, où les instincts les plus bas et vils ne connaissent plus aucun frein, et c'est justement ce qui le fascine. C'est sur ce territoire, particulièrement à New York et à Détroit, que les auteurs et musiciens qu'il vénère, Lou Reed et Iggy Pop, sont nés et ont prospéré. C'est à New York que Andy Warhol a créé sa factory, asile et atelier à ciel ouvert où il attire et sublime toute une marginalité rejetée de partout. David Bowie a été en effet le premier à transplanter ses fleurs vénéneuses et les cultiver loin de leur terre d'origine, en Europe, à leur offrir, pour ainsi dire, un écho international. Oui, c'est vrai, sans David Bowie et son manager Tony DeFreeze, eh bien Lou Reed serait peut-être resté enterré comme comptable dans l'entreprise de son père à Brooklyn. C'est en effet grâce à Bowie que Lou Reed a pu enregistrer en 72 à Londres l'album Transformer, qui inclut la célèbre chanson Walk on the Wild Side, le premier et sans doute le plus grand succès de sa carrière. Quant à Iggy Pop, sans David Bowie, il aurait sans doute longtemps erré de squat en hôpital psychiatrique, demeurant au mieux l'objet d'un culte underground. L'amitié profonde qui a lié durablement David Bowie à Iggy Pop produira des fruits artistiques exceptionnels. C'est une autre histoire que je vous raconterai dans un épisode prochain. Alors, la chanson qu'on vient d'entendre, The Gene Genie, est intéressante à plus d'un titre. Le génie en question que décrit Bowie dans les grandes lignes, c'est Iggy Pop. Je cite les paroles de la chanson, « Il s'assoit comme un humain et sourit comme un reptile, il avale des lames de rasoir, il aime les petites cheminées de poudre blanche. » Bon, tout ça est assez transparent. Bowie décrit dans The Gene Genie un pauvre gars sorti de sa pauvre banlieue, un greenie, un petit bisu, honteux de l'être, un gamin blanc fasciné par le blues des Noirs, un petit gars qui veut vivre une vie sauvage, plus authentique que tous les livres qu'il a lus, et qui, de peur d'être insignifiant, en fait trop sur tous les plans. Sexe, drogue, dépravation. Le personnage réel de Iggy a en partie inspiré à Bowie celui imaginaire de Ziggy Stardust. Mais Bowie, débarqué aux États-Unis, va pousser l'expérience plus loin encore. Si loin qu'il va d'ailleurs mettre en danger sa santé mentale. En effet, il ne va plus faire qu'un avec ce personnage délirant de rocker dépravé, y compris hors de la scène. Ce personnage théâtral, mais tellement vrai, qui a fait de lui la superstar qu'il rêvait d'être depuis de trop longues années. Dans chaque grande ville où David Bowie se produit, aux États-Unis, une minorité de jeunes gens, entre guillemets, différents, l'accueille comme un libérateur. Certains arborent sa coiffure, son maquillage, osent s'habiller de manière extravagante à son image. Certaines le suivent même absolument partout. Des adolescentes vierges viennent s'offrir à lui dans les chambres d'hôtel qu'il occupe. À Memphis, un promoteur gay lui propose même des prostituées masculins. Et dans une ville du Sud, carrément, des membres du Ku Klux Klan tente d'empêcher l'un des concerts de David Bowie, conspuant ce personnage décadent qu'il dénonce comme, je cite, « gay et communiste ». Un soir même à New York, c'est authentique, une bande de dingues lui propose même de faire l'amour avec un cadavre qu'ils sont prêts à lui livrer dans sa chambre d'hôtel. Il faut dire que selon les témoignages concordants, les suites d'hôtels que David Bowie occupe deviennent le théâtre de fêtes dépravées qui évoquent le film Satyricon de Fellini. Bowie se laisse totalement aspirer, dépasser, il glisse, consentant, vers une forme de théâtre vrai, un théâtre où l'acteur vacille et sombre dans le gouffre creusé par son propre personnage, ce qu'Antonin Artaud appelait le théâtre de la cruauté. Un jeu cruel, en effet, où l'acteur risque pour le moins de se perdre, ce qui ne manquera pas d'arriver à Bowie. Alors on peut se demander ce qui a pu l'entraîner dans une telle démarche. Eh bien, je vais vous le raconter, mais en attendant, Je vous propose d'écouter une de ses plus belles interprétations de la période, Sorrow. La chanson n'est pas de lui. Il s'agit de la reprise d'un succès oublié, une chanson américaine déjà adaptée en Angleterre en 68 par un groupe de Liverpool, les Mersey's. Bowie l'a interprétée dans le cadre d'un album composé exclusivement de reprises des chansons préférées de son enfance et de son adolescence, un album qui s'appelle Pin-Ups, qu'il a enregistré en été 1973 en France, au célèbre studio du château d'Hérouville. L'album Pin-Ups a également marqué la fin de l'association de Bowie à ce qu'on a appelé le mouvement du glam rock. Il allait bientôt partir vers d'autres mises en scène et d'autres vertiges.
Trip, Mishka Assayas.
You're just an ally of the Legion. Okay, sir. Virgin King, but I love you in your funky pumps and your nimble dress trims. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the rails. Because of all we've seen, because of all we've said, we all. Tomorrow's double feature. Heaven is on the pillow. Its silence competes with hell. It's a 24-hour service, guaranteed to make you tell. And the streets are full of pressmen, bent on getting hung and buried. And the legendary curtains are drawn round, baby, bankrupt. Who sucks you while you're sleeping? It's the theater of financiers. Count them, 15 round the table, white, dressed to kill. Oh, caress yourself, my beauty, while my hands are all but withered. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the stairs. Because of all we've seen, because of all we've said, we all be dead. We all dead. We all be dead.
We all. The Dead, Nous sommes les morts, une des chansons les plus mémorables de l'album Diamond Dogs que David Bowie a publié au printemps de l'année 1974. Une chanson au style très théâtral qui doit un petit quelque chose au cabaret berlinois de Kurt Weill. Diamond Dogs, un album qui est paru un an après l'album Aladdin Sane, dont j'ai diffusé un extrait en début d'émission, le célèbre The Gene Genie. Et puis Diamond Dogs est sorti aussi 6 mois seulement après l'album de reprise Spin-Ups, dont je vous parlais juste avant. Alors, les choses allaient très vite dans ces années-là, et surtout, elles changeaient très très vite aussi. David Bowie était déjà en train de devenir un autre. À l'été 1973, il s'était livré à un acte théâtral resté dans la légende. Lors de l'ultime concert de sa tournée britannique le 3 juillet, sur la scène du Hammersmith Odeon, un théâtre londonien, il a mis à mort le personnage de Ziggy Stardust, un suicide symbolique parfaitement orchestré. « Merci », déclare Bowie, juste sur le point de quitter la scène, « ce concert restera dans nos mémoires parce que c'était le dernier de la tournée, mais aussi le dernier tout court, nous n'en ferons plus jamais d'autres. Merci. » Après quoi, il se lance dans la chanson Rock'n'Roll Suicide et Ziggy disparaît à tout jamais. Alors imaginez à ce moment-là, il y a un cri d'incrédulité et de désespoir qui parcourt tout le public. Dans les premiers rangs, on a hurlé tout au long du concert, comme au temps de la Beatlemania ou de la T-Rex-tasy, la folie qu'il y avait autour du groupe T-Rex. Une minorité de très jeunes fans, surtout des filles, qui se sont maquillées et déguisées à l'image de Ziggy Stardust sont en pleurs. Et pendant ce temps-là, selon les témoins, il y a un videur qui s'exclame fortement avec une grimace de dégoût. Allez, bon débarras. Alors, il faut souligner que David Bowie avait gardé le secret de cette disparition de Ziggy Stardust jusqu'au dernier moment. Il n'avait annoncé l'événement à l'avance qu'à un unique journaliste ami, Charles Shaw Murray, de l'hebdomadaire New Musical Express, Murray qui a déjà écrit son article à l'information exclusive. En effet, dès le lendemain de ce concert sacrificiel, la nouvelle s'étale en première page du journal « Bowie quits ». Bowie abandonne et écrit juste en dessous « That's it ». Voilà, c'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini ? Ben, sûrement pas Bowie, mais Ziggy Stardust, le monstre qu'il a créé, cette créature du Dr Frankenstein qu'il a inventé et qui a fini par le dévorer. L'étonnant, c'est que Bowie n'en a même pas dit un mot à ses musiciens, les Spiders from Mars, qui, abasourdis, se retrouvent du jour au lendemain licenciés après cet ultime concert. Ils en garderont longtemps rancune envers lui, on les comprend bien entendu. Qu'est-ce qui a pu conduire David Bowie à une telle démarche, à pratiquer cette étrange expérience sur lui-même qui le pousse à faire d'un concert de rock, et d'ailleurs du rock en général, une perpétuelle mise en scène? Eh bien, pour le comprendre, sans doute faut-il faire un léger retour en arrière. Dès l'année 1967, une amie à lui a mis un David Bowie encore quasiment inconnu, âgé de tout juste 20 ans, en contact avec un mime anglais du nom de Lindsay Kemp. Sans doute un des premiers hommes de spectacle à avoir capté chez Bowie un talent à part. Kemp a eu pour lui, faut le dire, un coup de foudre, hein, sur tous les plans. Et puis Kemp, inversement, exerce une fascination sur Bowie. Pourquoi ? Parce qu'il fréquente à Londres, chez lui, un milieu trouble de proxénètes et de prostituées masculins qu'il accueille volontiers donc à la maison. Il parle à Bowie de l'écrivain français Jean Genet, hein, passé par la Légion étrangère et la prison. Et Kemp voit en ce jeune chanteur l'incarnation du personnage du roman de Genet, Notre-Dame des Fleurs, hein, Notre-Dame des Fleurs, un jeune voleur à la beauté éblouissante, naviguant dans le milieu de la prostitution masculine, et dont Kemp rêve de faire un spectacle théâtral. D'ailleurs, il le fera, mais quelques années plus tard, et sans Bowie. En tout cas, Lindsay Kemp veut faire de ce garçon, je cite, sa muse. Et d'ailleurs, brièvement, ils deviendront même amants. Kemp va enseigner à Bowie l'art du mime, l'art d'entrer en scène, l'art de s'y mouvoir, l'art de communiquer avec le public sans parole. Et puis, il lui parle aussi de l'art du masque, issu du théâtre japonais, le kabuki. Quand le visage est réduit à un masque, à une effigie, le comédien est à même de mimer une situation, une émotion particulière, grâce au seul mouvement de son corps. C'est ainsi que Bowie participe à des spectacles de mime de Lindsay Kemp. Certains le voient dans les caves du Londres Underground, je vous parle de ça, c'est dans les années 67-68, maquillé à la façon d'un masque, en costume de Pierrot ou d'Arlequin, costume évidemment dont il se souviendra, on se rappelle le clip de la chanson Ashes to Ashes à la fin des années 70. Et Bowie notamment a mis au point un numéro où il incarne un oiseau qui ne cesse de grossir, oiseau qui finit par dévorer la brave dame qui est en train de le nourrir. Et puis enfin, et ça c'est pas négligeable, c'est Lindsay Kemp qui parle en premier à Bowie d'Antonin Artaud et du théâtre de la cruauté dont je vous parlais tout à l'heure, où ce que l'on vit sur scène est un risque qui peut mettre la vie véritable en danger. Ce que Bowie mettra en œuvre à sa façon. Alors beaucoup connaissent la célèbre image qui orne l'album Aladdin Sane, l'album qui paraît au début de l'année 73. Bowie, au frêle torse nu, blanc argenté, les cheveux orange, les yeux baissés révélant des paupières rouges, le visage maquillé et strié d'un large éclair rouge au liseré bleu. Il est encore Ziggy Stardust, mais comme foudroyé. D'ailleurs, le nom de l'album, A Lad Insane, est un jeu de mots sur A Lad Insane, hein, c'est-à-dire un garçon fou. Faut dire, la folie n'est jamais très très loin chez Bowie. En fait, il ne sait plus exactement qui il est dans ces années-là. L'oiseau Ziggy a, au fond, dévoré celui qui le nourrissait. Et voici d'ailleurs ce que David Bowie déclare cette année-là. L'album A Lad Insane a quelque chose de schizoïde. Je l'ai fait durant une période où je n'étais pas tout à fait moi-même, je ne savais plus qui j'étais. Tout ce phénomène Ziggy Stardust échappait à mon contrôle. En fait, A Lad Insane, c'est Ziggy en Amérique. Alors, durant cette période de forte turbulence, Bowie semble, c'est vrai, naviguer à vue. Le contexte est pas facile du tout pour lui, il a plus de groupe, il a plus de guitariste, il a plus d'arrangeur musical, surtout puisque le si précieux Mick Ronson s'est fait licencier avec les autres Spiders from Mars. Et c'est alors que Bowie rappelle auprès de lui un des premiers professionnels à avoir cru en son génie, son ancien collaborateur new-yorkais Tony Visconti, un résident à Londres, lequel prendra désormais en main la supervision de ses enregistrements et le conduira vers des sommets. En attendant, Bowie décide de se mettre à la guitare solo pour pallier provisoirement l'absence de Ronson, en attendant mieux. Dans ce contexte, Bowie et ses collaborateurs assemblent l'album Diamond Dogs un peu comme un patchwork. Il y a un peu de musical, il y a un peu de cabaret berlinois, il y a du Broadway, et il y a encore un peu de Ziggy Stardust, mais il y a déjà une mutation qui se profile, une singulière métamorphose du style de David Bowie vers un rhythm and blues noir américain sophistiqué, pré-disco. On pourrait dire sensiblement le même que celui que les Bee Gees découvrent et s'approprient dans ces années-là. Pour un effet néanmoins extrêmement différent. Imaginez que cette intro de la chanson 1984, hein, comme 1984, c'est le titre, hein, pas l'année, sortie en droite ligne d'une chanson de Barry White, remonte en fait au début de l'année 74. Signé David Bowie, qui s'apprête à se transformer en un personnage aussi déroutant et même plus dérangeant encore que Ziggy Stardust. Oh, Fame, comme la gloire, le premier numéro 1 de David Bowie aux États-Unis à l'été 1975, une chanson qu'il a coécrite à New York avec le guitariste portoricain Carlos Alomar, ainsi qu'avec un collaborateur inattendu, le nouvel ami qu'il s'est fait à New York, John Lennon. Une chanson, vous l'avez entendue, au style rhythm and blues funky américain avec une pointe de jazz, un style que Bowie a découvert avec enthousiasme. Alors cette métamorphose musicale, c'est aussi une métamorphose tout court. Ziggy Stardust est mort, un nouveau personnage est en train de naître, plus insaisissable et plus inquiétant. Celui qu'on surnommera le Thin White Duke, le duc frêle et pâle, sorte de fantôme aux joues creuses, un personnage paradoxal qui chante ses mélodies sur des rythmes funky, réputés chauds, mais avec une sorte de détachement glaçant, une étrange emphase froide. Quoi qu'il fasse, faut dire, David Bowie ne peut pas s'empêcher de susciter une fascination où il entre une part de malaise, le malaise du vide au fond, le gouffre dans lequel il sait qu'il a glissé. On l'a vu, la célébrité à laquelle il aspirait tellement l'a dévoré. Et David Bowie ne peut pas s'empêcher d'en ressentir une forme de dégoût. C'est ce qu'évoque la chanson Fame qui, je cite entre guillemets, « vous entraîne là où tout sonne creux ». Ce sont les paroles de la chanson, c'est parfaitement dit. Et cette célébrité, telle que David Bowie la vit, n'est jamais loin d'un abandon, presque d'une perte de conscience. Bowie se laisse aspirer, sans frein, par tout ce qu'entraîne la célébrité, par tout ce qui s'offre à lui. Les partous, déjà, qu'organise sa femme Angie, également bisexuelle, comme lui, à Londres et à New York, les quantités effarantes de cocaïne qu'il se met à consommer. Visionnaire d'une société en pleine décadence, courant à sa perte, où chacun se livre sans frein à ses instincts les plus vils, David Bowie vit désormais à l'intérieur de ce cauchemar qui le fascine. Alors dans l'album Diamond Dogs, il demeure quelque chose d'un projet que Bowie avait formé, adapté le célèbre livre d'anticipation politique de George Orwell, 1984, en comédie musicale. Bowie n'a pas pu en acquérir les droits, mais certaines des chansons qui composent Diamond Dogs, comme 1984, 1984 justement, qu'on vient d'entendre, portent la trace de ce projet avorté. La chanson We Are The Dead, a entendu tout à l'heure, aussi. Nous sommes les morts, c'est une formule qui figure à la lettre dans le livre de George Orwell. Winston, le héros, y recourt pour décrire le sort de tous ceux qui s'opposent au parti totalitaire. Ils vivent sans espoir, comme s'ils étaient déjà morts. Ce sont des humains ayant conscience que quelque chose en eux est détruit, mort-né en somme. C'est une idée forte, une idée profonde qui résonne encore profondément dans nos sociétés. Et c'est l'idée fixe de Bowie, une idée dont, au fond, tout au long de sa carrière, il ne dévira jamais. Il la résumera encore une trentaine d'années plus tard lors d'une interview pour un magazine britannique avec une grande acuité, je cite David Bowie, en 2002. Dans les paroles de mes chansons, je parle souvent de la même chose, de cet instinct d'autodestruction. Au fond, cette idée de l'apocalypse, c'est pour moi la manifestation d'un problème intérieur, d'une anxiété personnelle. Il faut dire que cet instinct d'autodestruction, David Bowie va le vivre à plein durant cette période new-yorkaise, celle où il fréquente, entre autres, John Lennon. Le jour, il vit reclus, la nuit, il sort. David Bowie est, selon de nombreux témoignages, sous l'emprise quasi constante de la cocaïne. Il pense, non sans raison, que son manager Tony DeFries le dépouille et il en développe une paranoïa intense. Il voit partout des complots, des démons et même de la sorcellerie. David Bowie se passionne aussi dans ces années-là pour l'histoire du Troisième Reich, cherchant à voir tous les documentaires possibles sur le totalitarisme nazi dont les images le fascinent. Il fait durant cette période une rencontre importante, simplement amicale, même si peut-être il aurait espéré un peu plus. Celle d'une jeune Amanda Lear, et oui, dont la photo en femme dominatrice, longue jupe noire et bustier de cuir, tenant une panthère noire en laisse sur la pochette de l'album For Your Pleasure de Roxy Music, l'a fasciné. Il se trouve que Amanda Lear est alors la muse de Salvador Dali. Elle fait découvrir à Bowie, un garçon peu instruit mais avide de tout connaître, l'écrivain William Burroughs et sa technique du cut-up, dérivée du cadavre exquis surréaliste, une technique qui consiste à couper et coller de façon aléatoire des phrases isolées qu'on a pu écrire ou que d'autres ont pu écrire. Une technique que Bowie commencera à employer à très bon escient pour composer les paroles de ses chansons et ce, dès l'album Diamond Dogs. Selon le témoignage de Amanda Lear, c'est également elle qui lui parle du cinéaste allemand Fritz Lang, et en particulier de son film légendaire de Metropolis de 1927. Un film mettant en scène une ville monstrueuse en 2026, où dans une vision effrayante, une usine se transforme en monstre avalant ses ouvriers robotisés. David Bowie se projette en ses personnages en noir et blanc, à l'expression impassible, comme halluciné. Et il se reconnaît dans ses stries violentes de lumière aveuglante et ses décors déformés qui constituent l'esthétique inquiétante de l'expressionnisme allemand. C'est ainsi que David Bowie devient sur scène un personnage, pour ainsi dire, rétro-futuriste. Il a encore un certain temps les cheveux orange et il arborera bientôt une coupe blonde de héros arien. Il porte une chemise blanche, un pantalon ample à la coupe des années 1930, des bretelles, parfois un grand chapeau noir à la Greta Garbo ou alors un fedora de type Borsalino. Quelque chose dans cette apparence rappelle également Alex, le héros du film de Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, un orange mécanique. Alex, chef de bande et assassin, amoral et décadent dans une société pervertie imaginaire. Et le paradoxe, c'est que c'est sous cette apparence improbable que Bowie va se transformer en l'inventeur d'une forme de soul nouvelle qu'on pourrait qualifier de soul blafarde, plus que blanche, une soul glacée même.
Taking you nowhere. Angel, look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. There's my feet, they lost that soul. Opening doors and pulling some strings. Angel, in walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. One day upon day, I believe, oh Lord, I'll believe all the way.
Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Don't let me hear you. Life's taking you nowhere.
Very Good Bowie Trip, tout cet été, sur France Inter.
Des sommets de la carrière de Bowie, Stay, une chanson extraite d'un des meilleurs albums de sa carrière, Station to Station, sorti au tout début de l'année 76. Album dans lequel figure aussi son splendide Golden Years, son succès de l'année précédente à la rythmique marquée par la pulsation de la Nouvelle-Orléans. Alors le plus fascinant sans doute durant cette période, Et la façon dont David Bowie cultive une apparence entre guillemets aryenne, j'ai parlé tout à l'heure de sa fascination pour le totalitarisme, j'y reviendrai, alors que il se passionne pour les nouveaux sons de la musique noire américaine de la période. Son guitariste, le portoricain Carlos Alomar, emmène Bowie écouter au célèbre club Apollo de New York le trio vocal de Soul Rhythm and Blues de Harlem, The Main Ingredient, qui accompagne comme guitariste et choriste. Difficile de ne pas remarquer dans la salle Bowie avec ses cheveux orange et son grand chapeau noir. Il est de plus l'unique blanc de la salle. Carlos Alomar l'entraîne également dans des discothèques animées par des latinos où jouent les meilleurs musiciens de la ville d'origine cubaine et portoricaine. Et le rôle de Carlos Alomar, qui se joint à la tournée de Diamond Dogs auprès du guitariste de blues Earl Slick, est absolument central durant cette période. C'est lui qui aura l'idée d'amener en studio auprès de Bowie son ami d'enfance, le chanteur noir Luther Vandross, compositeur également, Vandross qui va régler les orchestrations vocales de l'album Young Americans que Bowie enregistre en partie au studio Sigma Sound de Philadelphie. Bah oui, Philadelphie, où se crée la nouvelle soul américaine. Alors Bowie, il faut le souligner, est le premier chanteur blanc a enregistré dans ce studio où sont passés de grands chanteurs comme Harold Melvin and the Blue Notes ou alors les OJs. C'est là qu'ils ont gravé leurs classiques. Alors, Bowie présente cette soul rhythm and blues funky et sophistiquée, un prélude au disco avec sa théâtralité habituelle. Tous les ingrédients sont présents, chœur gospel, percussion, saxophone, tout ce qu'on voudra. Et le résultat, c'est une espèce de musical fascinant, de théâtre. Et une partie du plaisir que l'on éprouve tient au fait qu'on entend Bowie interpréter un rôle inattendu. C'est un peu comme un comédien qu'on ne s'attendrait pas à voir et entendre dans un rôle. Et on est très agréablement surpris, on est même étonné. Quelques mois après la sortie de cet album, Young Americans, David Bowie part s'installer à Los Angeles. Il va partager une maison avec son compatriote anglais, le bassiste et chanteur anglais Glenn Hughes de Deep Purple, auquel va le lier une sorte d'amour platonique. Comme l'a déclaré Bowie à Los Angeles, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, il te serre pas la main, il te fourre une cuillère de coke sous le nez. Bowie en fait, je le rappelle parce que c'est vraiment très important, une consommation colossale, 7 grammes par jour en moyenne, avouera-t-il dans une interview, les connaisseurs apprécieront. Et quand il enregistre, eh bien Bowie en installe des petits tas à l'avance, sur le pupitre près du micro, aux deux coins de la console et également sur la petite table du canapé. Comme ça, où qu'il soit, il en a à portée de nez, si j'ose dire. Alors évidemment, avec tout ça, Bowie ne dort pratiquement jamais. Il prétend ne se nourrir que de poivrons et ne boire que du lait. Bon, ça fait partie de la légende, mais c'est très plausible. Il pense aussi qu'il est possédé par le démon et que la famille, entre guillemets, de Charles Manson, à l'assassin bien connu de Sharon Tate, cherche à l'assassiner. Et d'ailleurs, une nuit, il descend dans la cuisine, il prend tous les couteaux et il les cache sous son oreiller. Néanmoins, il faut rappeler qu'en studio, il est capable d'écrire 2 chansons par jour. Il écrit les paroles au dernier moment, selon la technique du cut-up dont je vous ai parlé. Et aussi, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est que même totalement défoncé, selon le témoignage de tous ceux qui ont travaillé avec lui, musiciens, ingénieurs du son, producteurs, etc., Bowie reste absolument charmant. Il nettoie scrupuleusement le studio après son passage et il laisse un excellent souvenir où qu'il passe. Ce qui ne l'empêche pas de dérailler totalement. Voici par exemple ce qu'il déclare à un journal américain en 1976, je cite « Je crois très fortement au fascisme. La seule manière de dissiper l'état d'esprit politiquement tolérant qui pollue l'air en ce moment est d'accélérer la progression d'une tyrannie d'extrême droite totalement dictatoriale et de la faire advenir aussi vite que possible. » et oui, David Bowie a déclaré ça. Trop de cocaïne, trop de films sur le nazisme, trop de nuits sans sommeil. Et Bowie ajoute aussi, avec la lucidité qu'il caractérise, qu'il se sent, je cite, au bout du rouleau et en proie à de sérieux doutes sur sa santé mentale. Pour autant, c'est durant cette période qu'il livrera certaines de ses interprétations les plus intenses, comme cette reprise d'une chanson popularisée par Nina Simone, Wild as the Wind. Let me fly away with you. For my love is like the wind.
satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind. Wild is the wind. Sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my life.
The Win, une très belle interprétation, une chanson extraite du très bel album Station to Station, paru au début de l'année 1976. Voilà qui vient conclure le quatrième épisode des étranges aventures de David Bowie.
Une série réalisée par Frédéric Milano et Stéphane Ronxin.
Dans le prochain épisode, le cinquième, j'aborderai la résurrection suivante de David Bowie, sa sobriété nouvelle en compagnie de Iggy Pop et de Brian Eno, et de leur découverte de l'âme des machines à Berlin.